En ce 29 décembre, à Rencontre spirituelle, nous pouvons célébrer un grand saint anglais, Saint Thomas Becket, archevêque de Canterbury. Il est tellement populaire qu'on a écrit au moins une cinquantaine de pièces de théâtre, dont celle de T.S. Eliot, ce grand écrivain anglais, pour raconter sa vie et son martyr qui a eu lieu en 1170. Il a été assassiné à la demande du roi d'Angleterre, parce qu'il s'opposait au roi d'Angleterre, qui voulait avoir un pouvoir sur l'Église. Et Thomas Becket, qui avait été auparavant chancelier du roi, donc le bras droit du roi, celui qui pouvait appuyer le roi le plus, et après avoir été nommé archevêque de Canterbury, c'est-à-dire primat de l'Angleterre, le chef de toute l'Église d'Angleterre, à l'époque où il n'y avait que l'Église catholique, n'est-ce pas? Les Anglais n'étaient pas séparés de l'Église catholique, ça ne viendra que plusieurs siècles plus tard. Eh bien, ce saint Thomas Becket a défendu les droits de l'Église contre le roi, qu'il aimait beaucoup, qui était presque son meilleur ami. C'est une espèce de préfiguration, si on veut, de l'histoire d'Henri VIII et de Saint Thomas, encore un autre Thomas, Saint Thomas More, hein, Saint Thomas More. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ce Saint Thomas Becket a donné son nom à de nombreuses paroisses à travers le monde. Nous en avons une à Montréal, n'est-ce pas? À Pierrefonds, pour être plus précis, sur l'île de Montréal. C'est une paroisse de langue anglaise, évidemment. Ce saint Thomas Becket, ou Thomas Becket, est un saint très, 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 très admiré, très populaire chez les anglophones à travers le monde. C'est regrettable que, je trouve, aujourd'hui, on n'en le mentionne même pas dans le prion en Église. Les sources, en tous les cas, ne manquent pas sur ce saint extraordinaire, cet évêque exemplaire sous certains points. Il y a de nombreuses vies qui ont été imprimées à son sujet. On a aussi 7 volumes de, comme on dit en Angleterre, de materials, c'est-à-dire 7 volumes de documents, si vous voulez. Il y a une correspondance aussi, même s'il a vécu au 12e siècle, une correspondance énorme de plus de 800 lettres. C'est considérable pour un homme de son époque. Et les lettres de Thomas Becket sont en général des pièces officielles. Donc, c'est pas nécessairement toujours intéressant. C'est des lettres d'affaires qui ne nous permettent pas vraiment de connaître cet évêque, cet archevêque. Et lorsqu'il semble d'ailleurs exprimer un sentiment plutôt profond, là, comme dans une lettre à l'archevêque de Mayence en Allemagne, Conrad de Wittelsbach. Il écrit des choses qui ont l'air un peu factices. Je regrette de le dire, le jour où on fête ce grand saint. Je vous cite le passage, c'est un peu curieux. Il écrit, ça fait un peu affecté, hein? « Malheureux que je suis, quelle est ma faute, quel mal ai-je mérité? Si mon dévouement a dépassé l'attente des hommes et ma fidélité le désir de mes amis, si par dévouement j'ai tout quitté et dépouillé de tout par une vue de foi, si j'ai suivi, humilié, avec mes misérables compagnons, mon Père et Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, et me suis exposé à tous les périls, voilà donc la récompense de notre confusion, le relèvement des perdus, la compensation de la racine amère par la douceur des fruits. Mais il est possible d'ailleurs que le mot Père et Seigneur revienne à Henri II, le roi d'Angleterre. Je n'en suis pas sûr. De toute façon, au XIIe siècle, sous ce roi, justement, Henri II Plantagenet, vous savez que c'était très mêlé, les Normands et les Anglais à cette époque. La France était était un territoire très réduit. Parce que sous ce roi Henri II Plantagenet, là, qui a fait assassiner un peu plus tard notre Thomas Becket, Saint Thomas Becket, bien la monarchie anglaise était une immense puissance, hein, autrement plus forte que la royauté française, d'ailleurs. Parce que la royauté, le royaume français s'étendait seulement, on peut dire, de Paris à Bourges, ce n'est pas tellement loin, Bourges. alors que les rois anglais, eux, dominaient de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, c'est-à-dire jusqu'aux frontières de l'Espagne, dans le sud de la France, ça leur appartenait, ce Rouen. Oui, oui, Rouen, en Normandie, et Nantes, et Poitiers, et l'Auvergne, dans le centre de la France, et Bordeaux, et Bayonne, tout ça, jusque vers le sud, là. En somme, les Anglais avaient remis en vigueur les anciens usages là, de l'Empire de Charlemagne, l'Empire carolingien, l'Empire romain même. En somme, ils excellaient dans la façon de gouverner, le gouvernement d'un État moderne, mais ils aspiraient secrètement, on peut dire, à cette époque-là, en tous les cas, à une espèce de totalitarisme. Ils étaient très, très, très exigeants. Ils allaient même, on pourrait dire, jusqu'à une forme de dictature. Et Thomas Becket, lui, qui était de souche normande, sans tomber dans des généralisations qui pourraient être un peu étranges, là, on peut dire que les hommes qui entouraient le roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant, présentaient quelques traits caractéristiques. On pouvait remarquer chez ces gens-là qu'ils étaient un peu comme leurs cousins d'Italie ou de Sicile, c'est-à-dire qu'ils étaient actifs, ils étaient directs, ils étaient durs et même brutaux. Et le père de Thomas Becket, qui venait de la noble classe des chevaliers, bien, avait entrepris, lui, de commercer à Londres. Il avait traversé la Manche, il était allé s'installer à Londres. Et bien vu à la cour, il était devenu un des notables de la ville de Londres. Mais il y a eu des revers de fortune, le père de saint Thomas Becket. Ça a assombri sa vie. Mais Thomas, lui, Thomas Becket, n'est pas né en Normandie. Il est né à Londres, oui, vers 1118. Et il semble que son père ait été plutôt dur pour lui. Mais sa mère est morte alors qu'il n'avait que 20 ans. Mais sa mère, il avait donner sa piété, elle lui avait transmis ça. Elle lui avait transmis sa dévotion à Notre-Dame, comme on disait à l'époque, Notre-Dame. Elle lui avait transmis aussi son goût pour une vie foncièrement chaste et aussi une très grande qualité, sa générosité pour les pauvres. Mais vous verrez que Thomas Becket n'était pas parfait. C'est un saint qui a eu beaucoup de difficultés pour arriver à la sainteté. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, loin de là. De toute façon, sa mère l'a marqué. Elle l'a marqué surtout par son amour. Elle l'a beaucoup aimé. Il avait deux sœurs. L'une est devenue abbesse d'un monastère, probablement de bénédictine, à Barking. Et puis, on peut se demander si ses sœurs ont eu de l'influence sur lui. On ne le sait pas parce que à peu près aucune des lettres, des 800 lettres là, de Thomas Becket, n'est adressée à une femme. C'est très, très curieux. On sait par des documents de l'époque, qu'il était beau et grand, il était vigoureux, il avait les cheveux noirs, il avait le nez aquilin, le teint habituellement un peu pâle. Il avait un œil perçant, puis une oreille très fine. C'était un type extrêmement brillant. Hein. Et saint Thomas Becket avait une mémoire qui enregistrait fidèlement ce qu'il avait lu ou entendu, puis il parlait avec facilité, il ripostait bien aux objections. Et on va voir que tout ça a failli le perdre, mais en même temps, tout ça lui a fait gagner la sainteté. C'est un jeune homme qui était, au début de sa vie, pris d'un vif plaisir pour les chevaux. Il aimait les grandes chevauchées. Il aimait aller à la chasse aux faucons. Il était fait pour l'action, quoi, le gouvernement, le combat. Il va même aller à la guerre, hein. Et après avoir étudié à Paris, d'ailleurs, jusque vers l'an 1139, jusqu'à l'âge donc d'à peu près 21 ans, il n'était pas de tempérament livresque. C'était pas un type qui se plongeait dans les études, dans les livres, puis il en sortait pas. Non, non, non. Il est entré assez jeune comme intendant chez un de ses proches pour gérer son grand domaine. Et puis, lui qui se faisait appeler à l'époque Thomas de Londres, il ne deviendra que Thomas de Canterbury quand il va remplacer l'archevêque de Canterbury, Thibault. Eh bien, il est devenu tout d'abord, justement, un clerc, c'est-à-dire Quelqu'un qui s'occupe des écritures et puis des travaux autour de cet archevêque de Canterbury qui s'appelait Thibault. C'était un compatriote normand qui venait de Normandie encore. Voyez-vous, la Normandie puis l'Angleterre étaient très très liées, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il s'est rendu, saint Thomas Becket, indispensable à ce vieux prélat Thibault, l'archevêque Thibault. Cela lui a valu à notre saint toutes sortes de voyages à Rome. Et vers l'âge de 33-35 ans, soit vers 1151-1153, il a fait des séjours profitables dans des écoles de Bologne, en Italie, puis à Auxerre, dans ce qu'on appelle la France aujourd'hui. Et ça a formé son tempérament de juriste, on peut dire. Il s'est mis à beaucoup mieux comprendre les lois. Alors, avec beaucoup de talent, beaucoup de succès, l'argent lui venait. Alors, c'était incroyable, il est devenu assez riche, hein. Ça favorisait d'ailleurs ses goûts. Il y avait des goûts de luxe, quoi, d'apparat. Et Thomas Becket aimait plaire. Il aimait se rendre populaire. Il aimait être applaudi. Il irrississait d'ailleurs par son charme, sa générosité. Mais toujours, et c'est ça qui l'a sauvé, il restait loyal. C'était un homme qui était ennemi du mensonge. Alors on l'admirait, on le suivait, mais peut-être sans amitié véritable. De son côté, lui, il semble n'avoir aimé vraiment le que ce vieil archevêque Thibault, dont il était l'assistance, on peut dire, le clerc. Et il aimait aussi très profondément le jeune roi Henri II, qui a pris le pouvoir en 1154, à 22 ans. Cette année-là, Thomas, lui, en avait 36. Alors il y avait donc une différence de 14 ans. Et cette année-là, donc, Thomas a été nommé par l'archevêque Thibault archidiacre. Et la même année, il a été nommé par Henri II chancelier du royaume, c'est-à-dire le grand maître du royaume, quoi. Hein? C'est celui qui avait le sceau, etc. Donc, il avait deux postes très importants. Après quelques tâtonnements, il s'est révélé, dans tous les domaines, un très bon administrateur. Il s'est fait très vite à ça. Et en 1159, son ami Jean de Salisbury lui a dédié, c'est très important, une théorie du gouvernement des cités. C'est un ouvrage qui l'a impressionné beaucoup, qui l'a aidé à comprendre que le prince, le roi, comme on appelle ça souvent le prince dans ces ouvrages-là, hein, celui qui dirige, quoi, qui est nommé en principe par Dieu pour diriger, eh bien cet ouvrage-là lui apprenait très clairement que le roi, c'est le premier serviteur de l'Église, serviteur de l'Église et de la loi. Donc, il ne peut pas obliger l'Église à faire des choses. Ce que les rois vont faire pendant des siècles, c'est épouvantable pour l'Église, ça. L'ingérence du pouvoir civil sur l'administration de l'Église, la nomination des évêques en particulier, même parfois sur l'élection des papes, c'est allé jusque-là, hein, des influences abominables. Et pendant donc 7 ans, notre saint Thomas Becket a su se faire estimer. Il a su aussi réduire les jaloux au silence, parce que quand quelqu'un a beaucoup de talent comme ça, il y a des jaloux. Hein, il avait une énergie tempérée de tact et puis de prudence. Et ça, ça fait des bons évêques, des bons administrateurs, des bons dirigeants. Il savait écouter aussi. Il savait tenir compte des justes critiques. Mais son faste, sa richesse grandissait avec ses revenus. Il avait les plus beaux chevaux, les meilleurs faucons du monde. Ses chiens étaient excellents. Il aimait beaucoup ses chiens. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'un autre saint, Saint-Charles-Borromée, qu'on connaît bien, Saint-Charles-Borromée, cet évêque de Milan, quand il était jeune évêque, qui était de tempérament, qui a vécu comme un pauvre, même s'il était archevêque de Milan et cardinal, Saint-Charles-Borromée, eh bien, il portait un vif intérêt à son chenil où il y avait de nombreux chiens. Oui, oui. Vous savez que les saints ont souvent aimé des animaux et on pourrait faire une liste assez intéressante. D'ailleurs, il y a un livre qui est paru comme ça sur les saints et les animaux et on voit que souvent, il n'y a pas que Saint François d'Assise qui a aimé les animaux. Beaucoup de saints ont aimé les animaux. Je vous ai dit tout à l'heure que Thomas Becket, avant de devenir archevêque et tout ça, eh bien, il a fait la guerre. Oui, il a montré, on peut dire, sa valeur guerrière dans une affaire du comté de Toulouse. C'est un peu compliqué à expliquer, je vous en fais grâce. De toute façon, je peux simplement vous signaler que dans cette guerre dans le sud de la France, où il s'est déplacé, c'était très loin, ben, il y dirigeait les soldats qui, il payait de sa poche. Hein. Et on l'a vu se mesurer dans un combat, comme on dit, un combat singulier, c'est-à-dire deux guerriers, le couvert de leurs armures et tout ça. Il s'est mesuré avec le fameux Enguerrand de Tri, qui était un chevalier français très, très renommé. Et au premier choc, là, il a désarçonné Enguerrand, qui est tombé en bas de son cheval. Puis Thomas et sa troupe sont devenus célèbres, d'ailleurs. Et le son strident, dit-on, dans les vieux textes de ces longues trompettes, vous savez, ça soulevait ses amis et ça remplissait ses ennemis de crainte. Donc, c'était aussi un tempérament guerrier. Donc, un dirigeant, un excellent administrateur, mais un homme de tact. Et un guerrier courageux. Étrange pour un futur saint, hein? Mais c'est tout de même intéressant. Et il semble que Thomas ait éprouvé le besoin de compenser, là, ce que sa vie avait de mondain et de dissipé par des grands aumônes. Il était très généreux. Il a fait aussi, très tôt, des efforts pour maintenir les droits de l'Église. Et c'est ça qui va le mener jusqu'à la mort. Hein? Les droits de l'Église. Il priait beaucoup. Et il pratiquait, de façon très cachée, sous ses beaux vêtements, des pénitences. Et Thibault, son archevêque, qui est mort en avril 1161, après 22 ans d'épiscopat, trouvait de son côté que son archidiacre, Thomas Becket, était un petit peu trop mondain, un petit peu trop, comme on dit, dans le siècle, dans le monde. Il le sermonnait, d'ailleurs, parfois. Il l'a fait appeler à son lit de mort, mais Thomas Becket était retenu par la raison d'État, comme on dit. Puis il n'est pas venu au chevet de son vieil archevêque. Alors, qui va prendre la place de ce vieil archevêque? Il était question d'un Normand, Gilbert Folliot, qui était un ex-prieur de la grande abbaye de Cluny, donc un bénédictin éminent. Il avait été aussi prieur d'Abbeville, abbé de Gloucester ou Gloucester, n'est-ce pas, en Angleterre en 1139. Il était devenu évêque de Hereford en 1148. Donc c'était un moine qui montait et qui montait. Et cet homme, qui était un peu ambitieux, convoitait d'ailleurs ce siège important de Canterbury, qui était le siège primatial, qui l'est toujours. Hein. Il est tenu par l'archevêque de Canterbury, qui est le chef de l'Église anglicane aujourd'hui, qui se sont séparés de l'Église catholique en 1532. Alors, notre Gilbert Folliot, ce moine-là, a dû se contenter de Londres, l'archevêché de Londres. Il y avait, d'autre part, une grande rivalité entre l'archevêque de York et l'archevêque de Canterbury, et l'archevêque d'York était un autre Normand, Roger de Pont-l'Évêque, qui était un ex-archidiacre de cet archevêque de Canterbury, Thibault, qui venait de mourir. Il avait d'ailleurs été sacré par lui le 10 octobre 1154. Alors on s'est demandé pendant quelque temps qui serait le successeur de Thibault, mais c'est Thomas qui finalement a été élu, Thomas Becket. Il a été élu à la fin de mai 1162. Alors là, il a été ordonné prêtre, il n'était pas prêtre encore. Alors il a été donné prêtre le samedi après la Pentecôte. Puis, il a été consacré dans sa cathédrale de Canterbury le lendemain, le 3 juin 1162. Il a été le premier en Angleterre, et j'aime beaucoup ça, moi, à célébrer solennellement la fête de la Trinité. Au fond, c'est tous les jours la fête de la Trinité. Quand on lit bien les textes du canon de la messe, quand on lit la messe, quand on lit les prières chrétiennes fondamentales, tout s'adresse à Dieu notre Père. Par Jésus-Christ, dans l'unité de l'Esprit-Saint, c'est toujours la Trinité. Mais là, il a célébré solennellement une fête de la Trinité qui dure encore dans l'Église. Il a institué ça dans son diocèse de Canterbury au dimanche suivant la Pentecôte, en souvenir de sa consécration épiscopale. Il avait alors 44 ans. 44 ans, chef de l'Église d'Angleterre. Sa promotion avait été favorisée, sinon peut-être un petit peu imposée, par le roi lui-même, je vous ai parlé du pouvoir du roi. Mais ce nouveau primat, Thomas Becket, Ami, je vous en ai parlé tout à l'heure, son point d'honneur à être désormais strictement d'église. Jamais il a voulu admettre une seconde qu'il pouvait trahir l'église pour plaire à son roi. Jamais. Il était d'une intégrité totale là-dessus, et sa vie s'est faite de plus en plus austère, tout en gardant, oh, magnificence, éclat, un peu à la façon, disons, pour expliquer là, de notre cardinal Léger, au début de son pontificat à Montréal, si on appelle ça le pontificat. Des mots qui sont dépassés, on n'utilise plus ça, nos évêques sont devenus si simples, si humbles même. Et par ce goût du panache, notre Thomas Becket différait tellement de l'archevêque qui l'avait précédé, qui était calme, ce Thibault, l'archevêque Thibault. Alors, il y a des conflits qui n'ont pas tardé à naître entre le roi et lui. Et Henri entendait avoir la main sur l'Église. L'Église anglaise, il comptait sur l'aide de son ancien ami intime, Thomas Becket, et par les constitutions de Clarendon, c'est comme ça qu'on appelle ça, qu'il a promulgué en janvier 1164, donc pas longtemps après que l'autre soit devenu archevêque. Mais on revenait aux vieilles coutumes. Et dans cette codification, ce code, si on peut dire, 9 ou 10 articles sur 16 étaient en opposition avec la loi de l'Église. Et par exemple, l'article 3 stipulait, dans le cas des clercs qui étaient accusés de méfaits, là, on disait ceci, « La justice du roi envoie un représentant en cour de la Sainte Église pour voir comment l'affaire y serait traitée. » Mais c'était une indiscrétion et c'était contre la jurisprudence de l'Église qui était préconisée par saint Thomas Becket. Et alors, les constitutions tendaient aussi à réduire les relations là, du haut clergé, les évêques anglais, avec Rome. Alors, ça a été très compliqué et Thomas s'est opposé à la politique du roi. Mais il a été brusque. Il n'a pas pris conseil. C'était une opposition amère. Ça lui enlevait une bonne part de sa popularité. Et voilà qu'il combattait, qu'il perdait nombre de ses amis. Les évêques, eux autres, de leur côté, les autres évêques hésitaient, hein, et certains ont trahi Thomas. Alors, il a connu des jours sombres. Et là, la partie s'annonçait perdue. Puis, il a pensé à partir, à quitter, à s'enfuir. Il a eu des essais de réconciliation avec le roi. Puis, il a éprouvé une espèce d'agonie de l'esprit. Bien autrement plus dur que toutes les batailles qu'il avait menées à la guerre, autrefois, quand il était laïque, ou diacre, simplement. Alors, il a eu peur de rentrer en prison, de souffrir une mort épouvantable. Il en était malade. Son confesseur le réconfortait. Il lui disait, « L'affaire ne dépend plus de vous, mais de Dieu. Il sera avec vous. Tenez bon dans votre juste cause. » Et alors, il s'est enfui. Et je vous raconterai tout à l'heure comment il s'est enfui, mais par quel malheur il est devenu un des grands martyrs de l'histoire de l'Église. Et voilà donc que Thomas Becket, en résistant au roi, qui voulait avoir du pouvoir sur l'Église, se voit pris dans des beaux draps. Il est sommé de comparaître pour entendre la sentence contre lui. Lui qui est chef de l'Église d'Angleterre, qui est l'homme le plus important d'Angleterre, de son côté dans le domaine religieux, puis il y a le roi de l'autre côté dans le domaine politique. Et notre saint Thomas Becket doit entendre la sentence. Alors, il va célébrer la messe de Saint-Étienne. Ce Saint-Étienne, le premier martyr dont je vous ai parlé le mardi dernier. Saint-Étienne, diacre, qui a été assassiné, n'est-ce pas, devant Saint-Paul, qui s'appelait Saul à l'époque. Je vous ai tout raconté ça. Bien, il s'est présenté la croix archiépiscopale en main. Il a défendu à ses collègues évêques de prendre part à son jugement. Et comme il se retirait, des chevaliers ont crié au traître. Alors Thomas a dit à l'un d'eux avec un geste expressif, « Si ses mains, des mains prêtres, n'étaient pas celles d'un prêtre, tu verrais ce que j'en ferais. » L'esprit combatif, la violence qui l'habitait assez facilement, hein, et tard dans la nuit, déguisé en frère convert, eh bien, il a gagné la côte sud de l'Angleterre, évidemment, puis en route, il a accepté sans façon d'une femme de pêcheur un bâton spécial pour marcher, bâton de pèlerin, si on peut dire, qui a été pris au coin d'une cheminée pauvre. Elle le lui a donné. Il a gardé ça en pensant à cette vieille femme. Il a pris la mer le 2 novembre et puis il est débarqué à Gravelines. Gravelines, c'est tout petit, là, c'est près de Dunkerque, hein, dans le nord de la France. Alors l'exil en France a duré longtemps, 6 ans, de 1164 à 1170. 1170, c'est l'année de sa mort. Donc 6 ans de retraite, après des activités qui étaient vraiment extraordinaires pour un homme, il était archevêque. Archevêque de Canterbury, il s'est fixé dans une abbaye cistercienne à Pontigny, dans l'Yonne. Je me souviens d'y être allé en 1950, c'était devenu la mission de France. C'était là qu'il y avait les prêtres ouvriers, qu'on formait les prêtres ouvriers en 1950. Hein. Et c'est très beau, c'est un très beau bâtiment, Pontigny. Et il avait aussi la responsabilité d'une sorte de petite paroisse, quelques fidèles seulement, était réduit à ça, quelques fidèles. Alors, des lettres, des visites lui arrivaient. Et puis, il était quand même l'archevêque métropolitain d'Angleterre sur 17 diocèses, alors que l'Angleterre en comptait 19. Il était primat, il était légat permanent du pape du Saint-Siège. Alors, il voulait continuer à faire bonne figure. Ses amis ont dû lui conseiller de modérer son train de vie à Pontigny. Quand il est venu à Sens, Sens, c'est pas tellement loin, c'est dans l'Yonne encore, il s'est fait accompagner de toute une cavalerie. Et les loisirs, quand même, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à faire, ça favorisait chez lui la méditation, l'étude. C'était un homme sérieux, au fond. Il était gagné un peu par le monde, même s'il était archevêque. Alors Saint Thomas, je l'appelle Saint Thomas déjà parce qu'il va le devenir, a voulu suivre l'observance monastique et le régime austère des religieux. Puis là, il a fait des prouesses de mortification. C'est là que la conversion se fait de plus en plus. Alors, les premières semaines, ça a été assez doux. Le roi de France le saluait comme un confesseur du Christ. Le pape Alexandre III avait publiquement reconnu dans ce primat de l'Église d'Angleterre le champion de l'Église, de toute l'Église. Alors, en 1165, il y a 3 lettres de Thomas Becket où on voit qu'il essaie de reprendre le dialogue avec le roi, son roi, sur un ton nouveau. Là, il se fait moins cassant et moins dur. Il devient tout spirituel. Sa conversion se marque aussi dans ces belles lettres-là. Il parle comme un père à son fils, mais Henri II ne lui a pas répondu. Alors, Thomas Becket n'avait pas, si on peut dire, un passé tout blanc, là, que fait la force paisible de Saint Anselme de Canterbury, un prédécesseur. Il avait cédé naguère aux complaisances mondaines, si on peut dire. Par besoin de compensation, il s'est porté violemment aux extrémités. Et sans prendre conseil, Thomas Becket avait promulgué à Vézelay en 1166 plusieurs excommunications contre les collaborateurs d'Henri II. Alors le roi Henri II avait riposté en exigeant que Thomas Becket fût expulsé de tous les monastères cisterciens, sous peine de représailles contre l'ordre cistercien établi en Angleterre déjà. Puis, il menaçait aussi d'exiler tous les membres de la famille de Becket ou de sa maison. Alors le primat, Thomas Becket, s'est transporté chez les bénédictines de Sainte-Colombe à Sens. Là, il y a eu des tentatives officielles de médiation sur l'initiative du pape, mais ça a échoué. Tout ça s'est fait de 1168 à 1170. Et là, le 14 juin 1170, ben, le roi Henri II a fait couronner son fils aîné, Henri le Jeune, par l'archevêque d'York, ce qui constituait là, une grave insulte au droit du primat de Canterbury, qui lui devait couronner le roi, ça lui revenait. Satisfait là, de cette réussite, mais inquiet là, des menaces du pape, Henri II a résolu d'offrir la paix à Thomas. Thomas avait 52 ans. Et là, le 22 juillet, dans un château de la région de Tours, en France, le roi qui a traversé la Manche et l'archevêque Thomas Becket ont esquissé un programme pacificateur, mais le roi s'arrangea pour ne pas donner le baiser de paix à Thomas Becket. Et notre archevêque s'était décidé à rentrer au pays natal, en Angleterre. En apprenant qu'au bruit de son retour, des dignitaires ecclésiastiques s'apprêtaient à s'opposer à lui, puis à lui faire une espèce de résistance en règle, Thomas Becket a lancé ce qu'on appelle des bulles de suspense, des espèces de condamnations, quoi, contre ses ennemis. Le mardi 1er décembre 1170, on arrive à la veille de son martyre. Il va être martyrisé à la fin du mois de décembre, le 29, c'est la fête aujourd'hui. Donc, le 1er décembre 1170, la veille du jour où il a pris la mer, il a condamné comme ça ces gens-là. Alors, les évêques d'York, de Durham, de Londres, de Salisbury, les autres suffragants de Canterbury étaient frappés de ces espèces de condamnations. Alors, les prélats de l'Angleterre étaient tous des gens savants, c'était des gens distingués, c'était même des gens qui connaissaient la loi. Thomas avait parmi eux des amis, mais aussi des ennemis. Alors, il y en avait d'autres aussi qui hésitaient entre lui et le roi. Les attitudes de Thomas Becket, ces espèces de saccades, les avaient empêchés peut-être de faire bloc devant les excès du roi, les excès absolutistes, un peu dictatoriaux du roi. Alors, on peut trouver dur l'attitude de Becket envers le vieil évêque de Salisbury. Il l'a déclaré suspens en 1166. Il l'avait excommunié en 1169. Cet évêque de Salisbury s'appelait Jocelyn. C'était un Normand, lui aussi. Il était loin d'être hostile à Thomas de Canterbury comme primat d'Angleterre, mais par faiblesse, il avait admis la nomination d'un doyen qui avait été excommunié par Thomas. C'était sans grand profit jeter cet évêque de Salisbury, Jocelyn, dans les bras de l'autre, là, l'archevêque d'York dont il a été question, le moine bénédictin Gilbert Folliot, qui était évêque de Londres et qui a témoigné à Becket une haine froide, implacable, cramponnée à l'erreur tactique là, du roi. Il était imperméable. Il ne croyait pas être capable de résister au roi. Et ce malheureux évêque de Londres, Folliot, n'avait plus ni humilité ni charité. Une lettre qu'il a écrite, qui a été crue longtemps inauthentique, tant la passion est épouvantable et tant il fausse la vérité, eh bien, c'est bien de lui. C'est un chef-d'œuvre polémique, si on peut dire, cruel et poli, il y a des traits terribles. C'est comme quoi la haine entre évêques dans l'histoire de l'Église est parfois épouvantable. C'est tragique, tragique. En somme, le meilleur, quand il est corrompu, devient le pire. Je le signale par vérité à l'égard de l'histoire, et quand je vous dis que des saints ont existé, je suis aussi capable de vous dire qu'il y a eu malheureusement de bien mauvais évêques, ou de bien mauvais chrétiens, ou même de très mauvais papes. La mesure qui a été prise par Thomas Becket pour son retour en Angleterre, c'était pas très 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 calme. Il avait des motifs estimables, toujours est-il que son retour, ça s'est tourné contre lui. Il savait que s'il avait poursuivi le baiser de paix royal là-bas, en France, quand ils avaient réglé leurs problèmes, il avait le sentiment qu'il marchait vers la mort. Et puis, avec le temps, bien, Thomas Becket s'était spiritualisé. Il était devenu un bon évêque. Et puis, la liberté de l'Église anglaise, comme membre de l'Église catholique romaine, était la cause qu'il voulait défendre, la cause de Dieu contre César, comme on dit, la cause de Dieu contre le roi. La population lui a fait un accueil enthousiaste quand il est revenu. On pense au Christ, le triomphant, qui rentre à Jérusalem parmi les palmes, les acclamations, mais, à peu près tout ce qui comptait en Angleterre, le méprisait un peu. Et le roi s'est écrié, « Qui me débarrassera de cet archevêque outrecuidant ?» Alors, quatre chevaliers ont résolu de soulager le roi. Et là, le 29 décembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, je vous le rappelle, ont pénétré sans leurs armes jusqu'à la salle auprès de la cathédrale de Canterbury, où notre archevêque Thomas Becket avait pris son repas, et où il s'entretenait avec des prêtres et puis des moines. Alors tout d'abord, il n'a pas remarqué les nouveaux venus qui s'étaient assis sur le plancher. Et il a rougi violemment à la première insulte de l'un d'eux, qui s'appelait Renaud. Ces quatre criminels exigeaient l'absolution des prélats qui avaient excommunié les évêques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a répondu, « Vous perdez votre temps à me menacer. Vous me trouverez toujours dans le combat du Seigneur Jésus. » Alors les quatre chevaliers sont sortis, en rageant. Et là, Thomas Becket les a suivis jusqu'à la porte. Et les quatre chevaliers criaient, « Pour qu'on empêche ce traître archevêque de fuir !» Alors, Thomas Becket a répondu, « Quoi ? Je ne fuirai jamais. Je reste ici. » Il est retourné s'asseoir simplement. Jean de Salisbury, un de ses bons prêtres, lui fit des reproches candidement. « Vous êtes toujours le même. Vous agissez et vous parlez toujours sans prendre conseil. » Et saint Thomas Becket a répondu, « Alors que devrais-je faire ?» Et Jean de Salisbury lui a dit, « Réunissez votre conseil. Vous ne voyez pas que ces quatre chevaliers ne cherchent qu'un prétexte pour vous tuer ?» Et saint Thomas Becket a répondu, « Nous avons tous à mourir. La peur de la mort ne doit pas nous détourner de la justice. » Je suis, et c'est très beau ça, je suis plus prêt à mourir pour l'amour de Dieu que ces gens ne le sont à me tuer. Alors, ils ont répondu autour de lui, « Parlez pour vous. Nous autres, pauvres pécheurs, nous ne sommes pas prêts à mourir. Personne ici n'a envie de mourir, sauf vous. » Et Thomas Becket a conclu en disant, « La volonté de Dieu soit faite. » Alors, on a entendu les quatre chevaliers qui revenaient bruyamment en armes. Et là, les moines se sont affolés. Ils suppliaient le primat, l'archevêque Thomas Becket, de passer dans l'église. Et il disait, « Pourquoi vous effrayez, mes chers pères ? » ?»« Ah, oh, ces moines, c'est toujours peureux, c'est toujours craintif. » Et là, le tapage augmentait, et malgré ces protestations, les moines ont poussé Becket vers l'église. Il a exigé alors que le mouvement se fasse décemment, avec un porte-croix en tête. Alors, comme on allait barrer la porte, il a dit, « Ah non, 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 l'église de Dieu n'est pas une forteresse. » Et là, Thomas Becket montait l'escalier qui conduit au déambulatoire. Vous savez, c'est les corridors qui sont là en hauteur, là. On les voit dans les grandes cathédrales, les déambulatoires. Alors, il montait l'escalier qui conduit au déambulatoire et au cœur. Le déambulatoire, c'est autour du cœur. C'est le déambulatoire qui est autour du cœur. Et alors, les cris de l'envahisseur ont retenti à la porte. Et Thomas Becket, en redescendant, a dit, « Je vais au-devant. » Et dans la nuit tombante, cette immense église de Canterbury, qui était une église amicale, lui ouvrait des trésors de bonnes cachettes sombres, si on peut dire, il y avait là des escaliers qui conduisaient. Il aurait pu se cacher. Quelques moines l'ont repoussé vers le maître-autel, et là, les chevaliers se frappaient dans la pénombre à des gens qui fuyaient. « Où est Thomas Becket, le traître au roi du royaume ?» s'est écrié le Renaud de tout à l'heure, là. Et il a repris, « Où est l'archevêque ?» Et là, la voix de Thomas de Canterbury s'est élevée. « Ici. » Pas un traître, mais un prêtre. Vous savez qu'on parlait français à cette époque en Angleterre. D'ailleurs, on le voit dans les armes d'Angleterre, c'est écrit « Dieu est mon droit, on y soit qui mal y pense », c'est toujours là, hein, au XXe siècle. Alors donc, ici, pas un traître, mais un prêtre, dit Thomas Becket, « Je suis prêt, au nom de celui qui m'a racheté de son sang. N'ayez crainte, vos épées ne me feront pas fuir ni abandonner la justice, mais au nom de Dieu, « Ne touchez pas mes gens. » Et alors, il s'est adossé à un pilier. Puis il a dit, « Renaud, Renaud, c'est ainsi que tu me remercies de tout ce que j'ai fait pour toi. » Alors les chevaliers ont essayé de le soulever pour l'emporter hors de l'église. Et Renaud l'a empoigné. Et l'archevêque Thomas Becket lui a dit « Ne me touche pas, Renaud. Tu es mon vassal. » Puis se débattant, il lui a dit, il s'est fâché là, Thomas Becket, « Un saint qui est à la veille de mourir martyr et qui se fâche, ça nous console. » Il dit « Lâcherais-tu, saleté ?» Il l'insulte. Et il a jeté à terre Renaud. Moi, ça me console qu'un saint soit assez courageux pour avoir cet honneur, cette fierté qui lui fait jeter à terre l'agresseur. Je dis pas que je ferais la même chose, j'aurais pas la force. Mais il faut dire que Thomas Becket était un guerrier avant, autrefois. Hein? C'est touchant. C'est un homme. C'est un être humain. Et il dit, je ne sortirai pas. Faites cela ici. Et comme ils hésitaient, eux autres, eh bien, Thomas Becket a joint les mains. Il s'en est couvert les yeux, incliné la tête, dans une prière qu'il a murmurée sur un ton fervent. Mon Dieu, Sainte Marie, Saint Denis. Vous savez, Saint Denis, cet archevêque s'est fait trancher la tête, hein? Archevêque de Paris. Et il a continué sa prière en disant, « Je vous remets ma vie et mon Église. » Alors frappé, il a dit encore, « Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains. » Vous savez, c'est les paroles de Jésus qu'on voit dans Saint-Luc au chapitre 23. Et un prêtre, Édouard Grimm, eut un bras tailladé en essayant de protéger Thomas Becket. Et au troisième coup, eh bien Thomas, archevêque, primat d'Angleterre, est tombé sur les genoux, sur les coudes, en murmurant, pour le nom de Jésus et pour l'Église, j'accepte la mort. Puis, il s'est étendu de tout son long, près des autels de Notre-Dame et de Saint-Benoît, et son vêtement le couvrait bellement jusqu'aux pieds. Il avait les mains levées, comme dans la prière liturgique. Les prêtres, vous savez, lèvent les mains. On peut penser à cette prière que l'on retrouve dans la liturgie catholique, cette prière qui demande à Dieu, par cette hostie offerte, faites de nous une offrande éternelle. Et c'est comme ça qu'il est mort. Notre martyr était entré par son sacrifice, on peut dire, dans cette action de grâce éternelle, à laquelle nous sommes tous appelés au ciel. Et là, les quatre chevaliers sont allés piller dans ses appartements. C'était le 29 décembre 1170. Ce crime a causé un scandale considérable dans tout le monde. Le roi Henri II a été frappé par le pape d'interdit personnel. Mais il a manifesté du repentir. Il a reçu l'absolution du pape le 21 mai 1172, donc un an et demi plus tard, quoi. La mort de Thomas amenait, si on peut dire, la réconciliation du roi d'Angleterre avec l'Église catholique, avec le roi de France, avec l'Église de Canterbury, avec les évêques exilés. Des miracles avaient attesté la glorification de saint Thomas Becket. Le Saint-Siège l'a canonisé rapidement, le mercredi des cendres, le 21 février 1173, soit moins de 3 ans après sa mort. La fête a été fixée au 29 décembre. Ça a été adopté avec entrain par toute l'Angleterre. Et il y a eu, le 2 décembre, une fête du retour de saint Thomas, le jour où il est parti de France pour retourner faire face aux martyrs. Il y a eu une translation solennelle des reliques de saint Thomas qui a eu lieu en 1200. Et d'autre part, c'est une anecdote assez étrange, Henri VIII, ce roi qui a séparé l'Église d'Angleterre de l'Église universelle catholique, mais après avoir séparé donc cette Église, en 1532, il a fait décanoniser saint Thomas, cet adversaire de la couronne. Il a fait ça en 1538. On a découvert dans la cathédrale de Canterbury, en 1888, des ossements humains. Mais après avoir fait des recherches, là, jusqu'en 1920, on croit que ce ne sont pas vraiment les restes de notre saint qui auraient été sauvés de la destruction ordonnée par Henri VIII. Dans les contes de Canterbury du grand écrivain anglais Chaucer, ou Chaucer, si vous voulez, Chaucer, vous savez, c'est les vieux textes qui ont été écrits par Chaucer vers au 14e siècle. Il est mort en 1400. Mais ces contes de Canterbury font sentir déjà l'importance des pèlerinages qui se sont organisés vers Canterbury, vers la tombe de saint Thomas Becket. D'ailleurs, en Angleterre, il y avait une expression courante qui dure encore, paraît-il, par saint Thomas, by saint Thomas. Et à 2 miles de Londres, il y avait, sur la route de Canterbury, le Watering of St. Thomas, c'est-à-dire un abreuvoir pour les chevaux des pèlerins. Et puis, on peut noter aussi, dans le Wiltshire, un St. Tass Bridge, c'est-à-dire un pont dédié à saint Thomas qui existe toujours. Son culte s'est répandu rapidement fort loin, et dans le 13e siècle, dès le 13e siècle, les loges de saint Thomas Becket étaient insérées. Jusque chez les Arméniens, c'est pas des farces, en Cilicie, au 29 décembre, ça a couvert le monde. En Islande, d'ailleurs, on peut dire que, ça peut nous étonner, mais saint Thomas de Canterbury a eu un culte bien vivant, une douzaine d'églises dans cette petite région, l'Islande, il n'y a pas grand monde là, hein, une douzaine d'églises ont été placées sous son patronage entre l'an 1200 et 1500. C'est extraordinaire. Près de 20 autres possédaient des images du martyr en Islande. C'est juste pour vous donner une idée de l'importance qu'a pris ce saint à travers les siècles. Il y eut au moins 3 vies de Thomas en islandais, d'ailleurs. L'Islande, vous connaissez ça, hein, c'est près du Groenland, dans le nord. C'est une... ça appartient au Danemark, si je ne m'abuse. Et dès 1179, notre saint Thomas, donc 9 ans après sa mort, a eu une église dans le diocèse de Marsico en Italie. Et je vous rappelle que sur l'île de Montréal, il y a la paroisse Saint-Thomas-Becket, ou Saint-Thomas-de-Canterbury, à Pierrefonds, rue Sainte-Anne. La légende s'est emparée rapidement de Thomas sous des formes variées. Ça a pris une attitude de toutes sortes. On a présenté Thomas Becket très rigide. On le présente aussi très riche. On le présente dans toutes sortes de formes, en peinture, des fresques à la miniature, des mosaïques, des émaux, des gravures, des broderies, de la statuaire, des objets en métal, etc. Il y a même un haut relief dans la cathédrale de Sens. Vous savez, la cathédrale de Sens, c'est la plus vieille des cathédrales gothiques, hein? Eh bien, elle est de la fin du 12e siècle, mais il y a là un haut relief en son honneur. En somme, c'est extraordinaire. Mais en Angleterre, après la décanonisation qu'a opérée Henri VIII, toutes les images de saint Thomas ont été détruites, les Anglicans ne tolérant pas son souvenir. C'était terrible en Angleterre. Mais heureusement, depuis l'acceptation des catholiques en Angleterre au 19e siècle, il y a des églises dédiées à Thomas Becket, Thomas de Canterbury, ce grand évêque.